des hommes et des sons.
À l'occasion de la Semaine du son et du Festival Longueur d'onde, 37.2 et Récréation Sonore vous proposent de réécouter les 5 œuvres primées lors de la dernière édition des Phonurgia Nova Awards. Documentaire, fiction, art sonore, les 5 œuvres écoutées couvrent tous les domaines de la création radiophonique. Et qui dit radio dit micro, et qui dit micro dit auteur. Chaque soir de la semaine, vous entendrez donc le portrait de l'auteur dont on diffusera l'œuvre. Ce soir, on écoute une quête primée dans la catégorie « Archives de la parole ». On retrouve tout de suite son auteur Benoît Bory dans un portrait réalisé par Marine Beccarelli pour 37.2.
Dites 37.2.
37.2.
Vous avez 37.2 messages archivés.
Alors, on est dans une cafétéria, j'ai pris un coca. Et t'as pris un café. Et j'avais pas envie de boire un truc chaud, moi. Voilà. Une voiture à l'image, ça reste une voiture. Un son de voiture, ça peut dire plein de choses.
Aujourd'hui, 37.2 tend son micro à Benoît Bory, lauréat du prix Phonurgia Nova 2017 dans la catégorie Archives de la parole. Vous ne l'entendrez pas vraiment parler ici de son œuvre primée, ni de technique ou de flamenco, mais vous l'entendrez évoquer ses premiers émois sonores, son choix de vie et son goût pour les rencontres.
Je m'appelle Benoît, je suis artisan sonore. Pour moi, c'est important le mot artisan. Je suis de taille moyenne, brun, j'ai souvent les cheveux courts, la barbe qui pousse, ça dépend des jours. Un œil de travers par rapport à l'autre, je suis pas exactement pareil dans le profil de l'autre. Voilà comment je me vois physiquement. Ma matière que je travaille, c'est du son. Je peux faire des projets à moi, comme des documentaires ou des compositions, qui sont vraiment mes projets. Mais je peux faire aussi du travail sonore pour des projets d'autres, des metteurs en scène, des gens qui ont des projets d'installation du visuel. Et là, c'est plutôt une compétence en termes de son que je mets au profit du projet de quelqu'un d'autre. Et j'aime bien le mot artisan pour le travail de matière, le travail avec les mains. Et le fait qu'on n'a pas toujours des choses à dire, et que du coup, voilà, on a une compétence aussi pour permettre à d'autres qui ont envie de dire des choses, de pouvoir mettre à profit ces compétences. Voilà. Quand j'étais jeune, ado, j'aimais bien aller à des fêtes, écouter de musique électro, qui me paraissait étrange, ou voilà, qui avait d'autres sonorités, des sons de synthèse que je ne pouvais pas entendre ailleurs, et voilà, j'aimais bien aussi en faire. Il y a eu cet intérêt-là, il y a eu la radio associative militante locale où j'ai commencé à Toulouse, c'est une radio qui s'appelait Canal Sud. Là, c'était plutôt de la revue de presse, faire des petits reportages, puis petit à petit, il y a le goût du documentaire qui est arrivé. Et après, en faisant du documentaire, qui a été ma première fenêtre professionnelle dans le milieu du son, petit à petit, l'envie de raconter des histoires aussi avec des choses qui n'étaient pas forcément avec de la voix. Travailler sur des compositions, intégrer l'électroacoustique, de temps en temps faire que des pièces électroacoustiques, de temps en temps mêler à la fois des pièces documentaires avec du storytelling, avec de la voix, avec de l'électroacoustique. Et c'est tout ça, enfin des croisements qui ont fait que après voilà, il y a des idées de projets, de formes qui sont plus ou moins hybrides qui apparaissent. Et après il y a l'envie de croiser des domaines différents. En ce moment, je bosse pas mal pour le théâtre et c'est chouette de pouvoir rencontrer d'autres milieux qui produisent des projets artistiques et voilà, qui sont pas issus de la radio que je connaissais. Voilà, ça permet de changer de monde. Qu'est-ce que c'est le son pour moi ? C'est quelque chose qui est tout le temps présent. C'est un sens sur lequel on n'a pas été éduqué. surtout des gens de ma génération. On n'avait pas de séance d'écoute quand on était jeune. Il y a un fort dispositif d'éducation à l'image qui existe au lycée, qui peut exister au collège, mais sur le son, il y en a très peu. Le son, c'est l'art de tricher, ça j'aime beaucoup. Tu travailles sur plein de couches. Un son, tu peux lui faire dire plein de choses. Enregistrer le grincement, le raclage d'une porte, ça peut être une porte qui grince, mais ça peut être aussi des machines industrielles qui rugissent. Et le son, il a ce pouvoir polysémique qui est très fort. Et du coup, ça amène un art de la triche, un art de la suggestion, d'apporter l'auditeur vers des mondes imaginaires qui est très fort. Tu peux faire résonner des sons du présent avec des évocations du passé, faire des voyages temporels qui sont très forts, et il a ce rapport au temps aussi, le son, qui est très important. On le voit aussi sur les écritures, quand tu passes d'une écriture en stéréo à une écriture multicanal, il y a vraiment un effet de dilatation du temps. Tu as besoin d'espacer les choses pour pouvoir vraiment permettre une immersion. Il y a vraiment ce travail avec le fil temporel qui est là, et je trouve que le son, il est vraiment en lien aussi avec un principe physique, le principe de l'entropie, où les choses, elles sont irréversibles. À partir du moment où tu pars vers une destination, vers un état, tu ne peux plus jamais faire marche arrière. Il y a vraiment ce côté-là aussi. Et après, il y a le médium radio qui est très attaché au son. Et la radio, elle a ce pouvoir magique de pouvoir gripper des gens au hasard. Ça, c'est chouette. Il y en a un très connu, c'est Pierre-Henri, sa composition avec les sons de porte. Il y a plein de pièces de Luc Ferrari aussi. C'était des premiers moments où j'entendais des sons de paysages sonores pris à l'extérieur qui étaient intégrés comme une musique. Des morceaux de documentaires aussi. Je me souviens de Je suis Frédéric de Damien Magnette.
Bonjour, je m'appelle Frédéric.
Qui était produit par les ACSR, tu es de création sonore radiophonique. C'est un autiste qui raconte son rapport aux choses, c'est un rapport très sensible, artistique, et il commence par un rapport au son, et il énumère plein de sons, en fait, de sonorités qui font partie de son quotidien, qui lui plaisent, et ces sonorités, petit à petit, elles s'assemblent dans le documentaire pour créer une musique, et c'est la parole, en fait, qui amène à écouter cette musique et qui permet la compréhension de cette musique. Et ça, je pense que ça a été une écoute qui a été très forte, parce que là, il y avait vraiment un lien qui était très fort entre qu'est-ce que c'était un côté narratif avec la voix, et comment la composition sonore pure, abstraite, elle pouvait amener à comprendre encore plus l'histoire et amener une complémentarité. Ça, je pense que ça a été un bon réveil. Il y en a plein, quoi. De tête, Tué, de Tony Ayer, c'est une pièce qui m'a beaucoup plu aussi. Pour parler des jeunes compositeurs, Zone de silence d'Amandine Casadamon aussi. Travailler sur le silence, la profondeur de chant. Ça fait partie de plein d'étapes. Après, sur les musiques électroniques, j'ai un souvenir d'avoir le sentiment d'éclater des bulles en écoutant le son des Spiral Tribe devant des enceintes. Du coup, c'était pas du son qui était capté avec des micros, c'était essentiellement du son de synthèse, mais il y avait vraiment quelque chose où t'avais vraiment l'impression de faire croire avec la musique, qui était très très beau. Génial, quand tu fais du documentaire ou que tu fais des compositions sonores à teneur documentaire, tu rencontres des gens et à chaque fois tu te projettes dans des mondes différents, qui sont des mondes où t'as pas du tout, qui peuvent pas du tout avoir les mêmes codes culturels que toi. Tu dois venir avec une empathie, le comprendre, l'écouter, être très à l'écoute, prendre aussi ce qui te vient à toi, et pas forcément forcer les choses, mais composer aussi avec ce qui est. Et en ce moment, par exemple, je travaille sur un documentaire sur des souvenirs d'un premier bidonville, la communauté gitane à Montpellier. Eux, ça les choque beaucoup qu'on puisse laisser nos parents, nos grands-parents dans des maisons de retraite. Pour eux, c'est impensable. Et après, d'autres relations au temps, par exemple, c'est par exemple impossible de prendre un rendez-vous fixe. Tu viens la journée et tu prends, t'enregistres ce qui est possible. Et par exemple, sur ce documentaire, j'avais un rendez-vous avec une mamie. Je pouvais pas être tout seul avec une femme dans une maison, donc forcément il y avait la famille. Et très vite, ils se sont mis à chanter. Le côté évangélique est très présent. Moi, je suis vraiment pas du tout au fait religieux. Et c'est quelque chose qui aurait pu me rebuter. Finalement, j'étais très pris par la poésie des chants et la façon dont ils chantaient. et les liens qu'ils pouvaient créer entre eux en chantant. Et ce chant des mamies avec leur fort accent, ça, voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup ému, que j'ai gardé, que je garde dans certains moments de composition du documentaire. Ça, c'est des choses qui me restent. Il y a des gens qui deviennent des amis dans le cadre des documentaires. Façon de rencontrer aussi d'autres choses, d'autres cultures. Avec les frères dominicains, en fait, je me suis retrouvé quasiment 2 ans en immersion chez eux. Pas tout le temps, mais du coup, ça m'a fait un peu changer de cadre par rapport aux ordres religieux, d'avoir un regard sociologique, toujours avoir quelque chose de nuancé, d'aller chercher des choses, de comprendre aussi des parcours. Et un son, sinon, si tu veux un exemple de son vraiment qui m'a marqué, c'était en Colombie, des grillons. J'étais sur un plateau dans la jungle, une sorte de clairière. Il y avait des arbres et à un moment donné, il y a des grillons qui sont mis à strider. On dit strider, striduler, je sais pas. Ils sont mis à chanter et ça faisait vraiment un son de clavier modulaire. Et puis d'autres ont répondu, mais ils avaient tous des tonalités différentes et ils étaient sur des arbres. Donc voilà, c'est comme si j'avais un son en surround. Avec un orchestre de synthé modulaire et des tonalités différentes. Et voilà, ça, c'est un son qui m'est beaucoup resté, que j'ai souvent utilisé dans des compositions pour un son évolutif qui tourne, qui part vers quelque chose de très, très imaginaire. Et en fait, qui est un son complètement concret que je pense j'ai même pas. J'ai peut-être à peine fait un travail en fréquence, mais j'ai absolument pas modifié, quoi. Oui, j'aime beaucoup les voyages. Après, j'ai du mal avec le tourisme. J'ai du mal à partir dans un pays, me balader, visiter. J'ai besoin d'être dans un endroit, vivre des choses avec les gens et rencontrer les personnes, savoir un petit peu qu'est-ce que c'est leur quotidien. Et de toute façon, dans un travail sonore, c'est comme ça que tu prends le parti de travailler. Donc du coup, ça me va très bien et c'est une manière de voyager qui me plaît beaucoup. Et après, c'est enregistrer des sons aussi que tu peux pas enregistrer ici. L'Australie, très concrètement, au départ, je voulais trouver un endroit qui pouvait m'accueillir en résidence où je pouvais enregistrer des sons de nature, surtout des oiseaux. Parce que là-bas, il y a beaucoup d'oiseaux différents. Il y en a un, par exemple, qui est assez extraordinaire, qui s'appelle l'oiseau lyre. Le mâle oiseau lyre a une queue qui est vraiment très belle et qui l'écarte quand il est en parade. Mais c'est un oiseau surtout qui écoute les sons, qui les imite. Par exemple, je me souviens d'un enregistrement là où j'ai enregistré le whip bird. C'est un son qui fait. Je suis très mauvais à l'imitation, mais c'est un son qui a une attaque très courte avec une chute assez longue, qui a un piqué assez aigu et qui résonne beaucoup. Et à un moment donné, les sons de whip bird que j'ai enregistrés étaient presque trop parfaits. Et après, j'ai fait écouter à quelqu'un qui est un peu spécialisé des oiseaux. Il m'a dit, mais en fait, c'est pas un whipbird. C'est un oiseau lyre qui écoutait des whipbirds à côté, puis après, qui s'amusait à les imiter. Voilà. Là, le projet, c'était vraiment de pouvoir écouter ça. Et après, il s'est avéré que c'est une vallée qui est intéressante sur les changements écologiques. Du coup, ça se transforme aussi en documentaire autour des changements écologiques de la vallée. Mais le voyage, oui, c'est toujours l'occasion d'aller enregistrer des choses qui ne s'entendent pas ici. Avec des thématiques sociales, en Colombie, c'était beaucoup sur l'industrie minière qui menaçait le monde paysan. Les résidences aussi, les voyages, c'est une façon de te former, d'attraper des billes supplémentaires, de voir d'autres façons de travailler, d'en incorporer certaines et d'autres non. Mais c'est toujours intéressant d'aller voir un petit peu comment les gens travaillent. La famille du son, elle est très polyvalente. Il y a des gens qui travaillent plein de façons différentes et souvent c'est des recettes de cuisine et c'est une façon de, de s'échanger les recettes de cuisine.
Attention Timmy, on ne bouge plus, on ne fait pas bruit.
Ouais, je suis originaire de la région de Toulouse. Je suis né à Albi, j'ai fait une partie de mes études à Toulouse. Pas que, mais et puis après je suis passé pendant quelques temps à Paris. On a créé Faille de Sonore avec Charlotte et Rouault. Et oui, j'ai passé pas mal de temps à Paris. Et à un moment donné, je suis redescendu à Toulouse. Je suis bien à Toulouse, ouais. Après, je suis souvent vadrouille et tout. Et Paris me manque aussi. J'ai besoin d'y retourner. J'adore cette ville. Mais vivre au quotidien, ouais, je trouve ça dur. pour plein de choses. Le rapport à la bouffe, à Toulouse, de pouvoir être en lien avec les producteurs très rapidement, de pouvoir être dans la montagne très rapidement aussi. Moi, la montagne, ça a toujours fait partie de mon cadre de nature qui était à côté de chez moi, où j'allais très souvent. Voilà, il y a Toulouse, ses facilités. Les Pyrénées, ouais, ça, j'en ai besoin. Et pour parler moi, enfin, ça, moi, j'adore écouter des histoires, donc j'aime beaucoup rencontrer des gens dans n'importe quel cadre. Et j'ai beaucoup besoin de nature, donc aller marcher dans un cadre où la nature n'est pas maîtrisée, elle n'est pas plate, il n'y a pas des champs agro-industriels, j'en ai besoin, et donc je vais souvent en montagne marcher. Et la résidence en Australie était géniale pour ça. Je me souhaite 4 semaines en montagne, dans une cabane, tout seul. C'est un choix de vie. Enfin, voilà, si vous voulez travailler dans le son, il y a deux options. Soit vous travaillez pour une structure, et dans ce cas-là, ça veut dire que vous n'avez pas toujours le choix au niveau de vos projets. Soit vous êtes indépendant, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut bosser pour être polyvalent, bosser pour plusieurs formes différentes, parce qu'on ne peut pas dépendre que d'un responsable ou d'une responsable éditoriale. Il faut diversifier, ça veut dire que tu passes pas mal de temps aussi à chercher, à imaginer des projets, à te planter aussi. Le plantage, il fait partie des choses. Il y a des fois des projets que tu écris, tu t'imagines, tu penses, et puis ça aboutit pas parce que... tu trouves pas les financements, les structures finalement ne peuvent plus t'accueillir. Il y a des choses très compliquées. Après, moi, je trouve ça chouette dans ce côté artisanat indépendant, c'est que du coup, tu touches un peu à toute la chaîne de production et tu es obligé de te maintenir au courant aussi de ce qui existe en termes de technologie. J'ai un petit côté geek aussi, donc ça me plaît d'aller voir un peu les nouveaux types de microphones, les nouveaux plugins. Ouais, j'aime bien parler de ça aussi, de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps, j'aime bien parler de ça. Et ça, c'est chouette aussi.
Vous venez d'entendre Benoît Bory dans 37.2, un portrait réalisé par Marine Beccarelli. Vous pouvez retrouver les références des extraits diffusés sur radiocampusparis.org.
Le documentaire, il s'appelle Une quête. C'est à la fois une histoire racontée par des frères dominicains autour de la recherche qu'ils font de chants liturgiques du XIIIe siècle, et une composition sonore que je me suis amusé à composer à partir de sonorités que j'ai enregistrées au couvent des Jacobins, qui est leur couvent historique qu'ils ont dû lâcher, qui est devenu un musée, un bâtiment historique à visiter, qui appartient à la mairie de Toulouse maintenant, et des sons de leur quotidien aussi. C'est un travail qui s'est fait sur 2 ans, parce qu'avant le documentaire, il y a eu une composition sonore que j'ai faite pour le couvent des Jacobins. L'idée, c'était de visiter par le sens de l'ouïe le couvent des Jacobins, où je faisais une composition sonore à partir des sonorités vides du bâtiment et des sons du quotidien du monastère actuel, du couvent actuel des frères dominicains, qui est un couvent des années 50 en béton horrible, absolument hyper réverbère. Et après, suite à ça, les frères dominicains m'ont demandé de faire une création sonore pour les 800 ans de leurs ordres. Donc je me suis retrouvé à faire une création sonore en commande de l'ordre des dominicains de Toulouse. Et du coup, je me suis retrouvé en immersion chez eux. Et suite à ça, après, j'ai découvert cette recherche qu'ils faisaient de chants liturgiques du XIIIe siècle. Et moi, ça m'a titillé l'oreille parce que... ils se réapproprient des techniques de chant qu'ils avaient perdues, qui sont des techniques de chant pour permettre de porter la voix sur des bâtiments historiques très très grands. Et pour moi, c'était une quête de l'inutile parce qu'ils ont perdu l'usage de ces bâtiments énormes. Et dans ce monde moderne du 21e siècle où on doit être absolument rentable, le fait de se lancer sur une recherche sur plusieurs années, là ils en étaient à leur 4e année de recherche pour pouvoir s'approprier ces techniques de chant, je trouvais ça très poétique, assez beau. Et il parle d'écho qui passe le long de la nudité de la pierre. Ils ont carrément compté les secondes des échos, des résonances des sons. Donc ils me disaient, dans tel endroit, le son il reste 6 secondes. Donc on s'amusait à faire claquer un son. Et puis on attendait, on essayait de compter mentalement le son. Donc c'était plutôt de partager ce moment d'attente dans l'écoute Et quand tu t'enregistres, tu es beaucoup dans l'attente. Et en même temps, c'est une attente où tu finalement, tu n'attends rien, quoi, mais tu es là et tu écoutes. Hein. Et de pouvoir partager ce moment-là, parce que souvent, tu es très seul. Et c'est des choses que tu fais seul aussi pour ne pas être perturbé dans ton environnement sonore. Et d'avoir pu partager ça avec quelqu'un voilà, qui faisait partie des personnages de mon documentaire et avec qui j'avais l'impression d'échanger vraiment dans une compréhension au niveau de l'écoute. J'ai trouvé ça très beau et ça m'est très peu arrivé, quoi, dans le cadre du travail. Et l'autre chose aussi, c'est que c'est le fait de faire des chants liturgiques les amène aussi à critiquer par exemple le mode de vie, le rythme de vie du travail salarial. Et pour moi, c'était utiliser un vieux concept pour amener des gens et les sons à parler de sujets qui sont très contemporains. Voilà, il y avait un lien entre l'historique, la transmission et qu'est-ce que ça peut provoquer autour de la vision du présent qui était assez beau. Et après, voilà, une rencontre vraiment qui s'est faite personnelle où ils m'ont raconté de l'intime tout en étant très pudique qui était très beau. Notamment, un propos de frère Marie-Philippe qui m'a beaucoup marqué, où il raconte son arrivée dans l'ordre, où il raconte qu'il voilà, y a cette cérémonie avec ses parents et l'ordre lui donne un nouveau prénom devant ses parents. Donc, voilà, toi qui n'es pas du tout dans ces ordres religieux, voilà, ça peut revêtir un côté très très violent. Et la façon dont il le dit, de façon très douce et très sûre, il y a vraiment quelque chose de perturbant. Ouais, qui remue, quoi.
Excusez comment ça peut fonctionner. Il faut mettre la prise. Hein. Attends. Je pense que... Oui, ça marche. Ah, pardon. J'ai vu chez les intellectuels. Tiens. Là, je ne vais pas mettre une prise. Non, là.
Les dominicains sont réputés pour être des intellectuels. Alors qu'ils sont studieux, normalement. Ils aiment l'étude, ils sont là pour contempler la vérité, et puis pour après, pour la transmettre.
Nous, il n'y a pas de miel, il n'y a pas de savon, il n'y a pas de fromage, il n'y a pas de vache, il n'y a pas de tas de belles choses que font les frères bénédictins ou d'autres familles religieuses.
Le chant. Prière du matin, l'aude, la prière du soir, vêpres, complies ou vigiles. La messe quotidienne.
J'écoute.
En fait, la parole, c'est un peu notre vie, de toute façon. Que ce soit pour parler en conférence, que ce soit pour chanter, même dans les chuchotements des confessions, de toute façon, une très très grande partie de notre, de ce à quoi nous consacrons nos efforts, notre discipline, à quoi nous nous formons, ça consiste à maîtriser la parole. Donc, une chose qui m'a marqué, c'était lors d'un séjour que j'ai fait justement, en me demandant si je rentrais dans l'ordre ou pas. On va refaire on va le refaire à deux voix. Toi, tu feras cette voix-là, et moi, je pourrais faire celle du bas, comme ça. Une conférence faite par un frère sur le commentaire de quelques icônes de la résurrection.
Encore une fois, il faut que ça vienne des tripes, ça. Hein, voilà.
Et c'est vrai que ce frère était un homme de la parole. Qui était d'ailleurs incapable d'écrire, mais en revanche, il avait dans la voix des espèces de formules qui revenaient dans ses conférences. des leitmotifs qui rythmaient son propos comme un refrain dans une chanson, en fait, alors que c'était une conférence. Et il avait une manière aussi de poser sa voix, oui, qui fait que c'était une expérience sonore extraordinaire. C'est vrai, oui. C'était un grand orateur qui savait moduler, en fait, sa voix parlée sur plusieurs tons.
Il faut à la fois qu'il y ait toute l'émotion de Notre-Dame et puis en même temps le contenu secret et merveilleux du cœur de la Vierge qui a médité tous les événements de la vie du Christ qu'on entend là-dedans.
Marqué, c'est vrai qu'il m'en souvient encore très bien.
C'est ambitieux, c'est ça, hein, voilà. Donc, ça fait beaucoup de choses d'un coup. Alors, je commence tout seul. Stabat mater dolorosa, iox sa crucem lacrimosa, dum pendebat filios, dum pendebat.
D'une certaine manière, c'est plutôt parce que j'avais cette sensibilité au son que je suis devenu dominicain. Non, j'exagère, c'est beaucoup dire.
Celle-là, d'ailleurs, ça ne doit pas être trop difficile, quand même. Mais avec l'émotion, ça convient.
Ça permet de trouver plus facilement sa place dans une communauté de gens quand même assez divers.
On essaye ?
Oui.
Stabat mater dolorosa.
De toute façon, qui sont unis de façon un petit peu artificielle. Le chant est un des grands lieux d'unanimité et de concorde dans une communauté, au sens propre, par l'harmonie. Et au sens figuré, par l'harmonie des caractères.
C'est ça, en fait, oui, c'est ça. On part sur MAM.
Vous y êtes ? Il y en a qui cherchent leur partition encore.
On a un dominicain, Jérôme de Moravi, qui écrit une encyclopédie musicale où transcrire toutes les connaissances musicales de son temps.
Beata vichera Marie.
Alors vous voyez pas très bien, mais il y a une petite queue sur la première note du riz.
Et dans ce traité, Jérôme de Moravi décrit comment interpréter. Donc c'est le seul texte du Moyen-Âge, en fait, qui soit aussi explicite.
Ce sera sur ce que je vous disais. Pa-pam, pa-pam, pam. Bon, allez.
Marcel Pérez, bon, c'est un artiste qui est maintenant très connu. Il y a déjà, oui, au moins 20 ans que j'écoutais ses enregistrements. J'avais jamais eu l'occasion d'aller à ses concerts, mais Marcel Pérez fait un travail pour ressusciter des trésors de cette tradition liturgique.
Beata vichera Mariae Virginis.
Et c'est un texte vraiment fondamental que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre parce qu'il décrit des choses dont nous n'avions pas idée il y a 30 ans.
Bon. Alors, la rose de patience.
Pour moi, ce qui compte, c'est que ce chant vive pour moi, pour ma vie religieuse, pour ma prière.
Vous avez des sons qui sont séparés, après vous avez des sons qui sont groupés en deux, en trois, en quatre.
Que je retrouve ce qui a fait vibrer des frères il y a 8 siècles.
Le chant à cette époque a un vocabulaire très riche.
Ces frères-là, je les connais par leurs écrits, par leurs enseignements. retrouver comment ils ont chanté des pièces.
Il s'agit par les mots de signifier ce qui n'apparaît pas sur la partition.
Et arriver à chanter comme ils ont chanté nous les rapproche encore, on les sent presque être à côté de nous. Voilà. Donc ça c'est extrêmement émouvant.
Les Dominicains ont innové dans le sens qu'ils ont dû créer des règles, des points de repère pour pouvoir chanter ensemble. Parce que les Dominicains ont eu à affronter une nouvelle situation qui était inédite dans l'Église, c'est-à-dire leur communauté était constituée d'éléments hétéroclites, c'est-à-dire des hommes qui venaient de partout. Il y avait un Anglais, un Allemand, un Espagnol qui se retrouvaient à Paris. Et puis chacun avait sa tradition et ils devaient chanter ensemble, ce qui était pratiquement impossible parce que chacun avait vraiment des traditions très différentes.
Vous avez bien vu, n'est-ce pas, sur le séculus, il y a une petite... comment ça s'appelle? Une clisse, c'est ça, non? Comment c'était? Oui. Clisma, c'est ça, non?
Le rythme procède également des mots, clisma, je sais plus, des phrases. En fait, ce sont les accents naturels de la langue qui permettent de rythmer une phrase.
C'est ça, je crois. Il en a parlé à propos de Léon IX, qui faisait très bien les clismas, paraît-il. Le pape Léon IX s'était même écrit sur sa pierre tombale. Il était habile à chanter les clismas. Voilà, c'est ce que nous a dit la classe.
Donc la langue est en rythme musical, eh bien on peut en tirer une rythmique.
Oui, il y a beaucoup de langues, de fait. Oui.
Et qui va en fait assez naturellement s'élaborer. Et de fait, je pense que cette rythmique, c'est la base de la manière dont nous interprétons la musique en français. C'est celle des mots.
On va essayer de l'antienne.
Nous avons eu à Marseille, pendant une célébration de la messe, donc un Irakien qui nous a chanté en araméen tout un hymne de sa voix un peu sourde, un peu grave, enfin qui était magnifique, qu'on a très peu l'habitude d'entendre. Et puis là, tout d'un coup, on était vraiment transporté, vraiment totalement ailleurs. D'ailleurs, ça nous a un peu coupé le souffle, en quelque sorte, c'était le psaume 1. Et là, tout d'un coup, on était à Jérusalem, au temps du Christ, avec la langue qu'il parlait, que les apôtres connaissaient. Et on s'est senti... On s'est senti à la fois chez soi, puisqu'on était chez le Christ, mais dans, justement, plus dans notre petit confort de choses qu'on fait entre nous, etc., de ceux dont on a l'habitude également. Mais on était vraiment participant à quelque chose de beaucoup plus grand que soi, tout d'un coup, par ce contact avec la musique Il parle le chant araméen que nous a chanté cet homme.
Virga.
On se laisse façonner par cette liturgie au fur et à mesure, ce qui fait qu'on peut reprendre pendant 70 ans les mêmes chants.
L'acte de monter, donc une manière de faire monter la mélodie. Et salicus, salicus, c'est une manière de sauter. La pes quadrat, quadratus. Pulisma, une manière de faire tourner la voix pour faire un tremblement.
Nous, cette recherche, c'est pour se réapproprier sans cesse, et c'est un travail sans cesse à faire, de nos racines. On n'arrive pas au XXe siècle seul, on arrive avec 800 ans d'histoire. Souvent, on reconnaît très facilement le pas des frères, leur pas et le bruit de leur rosaire, parce qu'on a des rosaires très différents. Il y en a. On se les transmet de frère en frère. À ma mort, un autre frère prendra ce rosaire. Que je porte à 70 ans, il y a déjà 70 ans de vie de prière derrière lui, et donc ça fait partie de ce processus aussi de s'inscrire dans une continuité. Parfois il y a des frères qui ont j'ai l'impression plus de médailles que de graines à leur rosaire, ce qui fait que on entend plusieurs cloches à sonner en passant dans le couloir.
C'est un projet très stimulant parce que, d'une part, il s'inscrit dans une longue durée. C'est presque 2 ans que nous consacrons à cette redécouverte du chant dominicain des origines. C'est une musique qui est écrite, mais ce qu'il y a, c'est que pour l'interpréter, il faut trouver le son, l'énergie, la dynamique que génère cette musique.
Ah oui, c'est vrai. Oui, ça, c'est vrai, en fait. Oui, oui, ça peut... Oui, 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 oui.
Là où je pourrais prier simplement avec des mots, eh bien, la musique va colorer cette prière avec tout ce que la musique est capable d'apporter comme finesse d'expression.
Il n'y avait pas un coulisménisme, coulisse fouette là sur
quel le endroit.
Ah oui, c'est ça, oui, toi tu as fait, tu as raison. Oui, c'est
ça. Oui, donc oui. Ce qui est écrit n'est qu'une partie de la formation, quoi. Il faut y ajouter de la chair, c'est un peu un squelette, quoi.
Il me semble. Là.
Non, c'est pas un coulant, il n'y a pas les deux.
Non, il n'y a pas les deux.
Il n'y a pas les deux.
Tout à l'heure, on l'a fait, il n'y avait pas
oui,
les deux.
Oui, mais il y avait les coulissants. Si, si.
C'est quoi les coulissants? Il n'y a pas de coulissants.
Dans la tradition du chant grégorien, on a. Des centaines de pièces qui sont des variations sur comment dire Alléluia, comment dire louer le Seigneur. On pourrait se dire louer le Seigneur, il y a, bon allez, même en parlant, je peux avoir une dizaine d'intonations différentes.
Et là, il y en a deux, et là, tu me montres combien il y en a ?
C'est sûr, c'était sur ça qu'on disait tout à l'heure ?
Oui, oui.
Ah oui, effectivement, il n'y en a pas deux. Très bien. Voilà.
Donc, qui a raison ?
Marcel Pérez.
Mais le grégorien, lui, arrive à faire des centaines de pièces différentes qui vont exprimer ce « louer le Seigneur »
bon, la prochaine séance, c'est quand
avec à chaque fois une tonalité différente.
Sur ces textes, sur ces musiques écrites, sur cette notation qu'il faut apprendre à lire, mais grâce à ces éléments, on peut redonner vie et retourner vers l'acte vocal, vers l'oratio.
Avec Marcel Pérez, on apprend à chanter toute la note dans son intensité.
En fait, c'est une pique longue. Hein.
À mettre les notes au service du texte.
On refait, tu fais le primus.
Ce qui fait que les interprétations peuvent être très différentes selon comment on se sent, selon le lieu où on se trouve, selon les personnes qui écoutent, selon la fête que l'on fait ce jour-là.
Oui, c'est ça. Alors, voilà. Tu fais le primus ? Oui, d'accord. Chouette. Voilà. Alors, on va faire comme ça que tout le monde aura sa voix. Tu fais le primus, toi ? Avec Antoine. Là-dessus, en fait, on s'exerce, mais à plusieurs, bien sûr, parce que comme c'est du chant en harmonie, de toute façon, moi, j'ai plus besoin de je déchiffre à vue, de toute façon. Donc, je n'ai plus besoin de répéter tout seul. En revanche, ce dont j'ai besoin, c'est de pouvoir faire l'harmonie avec les autres. Dans ce cas-là, là, en effet, on cherche à ajuster, à être bien ensemble, à allonger les bonnes notes. Et donc, là, il y a, de fait, une dynamique assez naturelle qui se met en place, oui, à plusieurs. Alors, ça va ?
Ah tiens.
De l'autre côté, c'est en polonais, donc en effet, c'était plus difficile. Là, voilà.
Ah oui, non, c'est mieux en latin.
Oui. Parce qu'en fait, c'est un frère polonais qui me l'a donné. Ça. Comment ? C'est très très bien. Ah, c'est très bien, là. C'est très bien. Alors, voyons.
Thank you.
speak English?
A little bit, yes.
Yes. I have a brother from France, and I should be accommodated here for the practice of singing with Marcel Pérez.
Alors, il se trouve que nos frères de Pologne, dans les années 90, ils ont fait appel à un élève de Marcel Pérez pour réformer leur pratique du grégorien. Parce qu'ils avaient en fait un grégorien relativement habituel, enfin le même qu'ici, et ils ont trouvé que de fait ça ne permettait pas de chanter ensemble, qu'il fallait trouver une rythmique qui corresponde donc à la grande taille de leur province, qui compte plus de 300 ou même 400 religieux.
Voilà. Alors, c'est un manuscrit de Cluny de la fin du XIIe siècle.
Et donc, pour ça, ils se sont penchés sur Marcel Pérez, cet élève dont les théories les ont beaucoup intéressés.
Donc, ça, c'est un des premiers manuscrits en notation carrée.
Alors, je suis très intéressé par voir comment eux chantent un répertoire qui est plutôt d'origine méditerranéenne, hein, d'après Marcel Pérez, l'infléchit beaucoup dans ce sens-là, méditerranéenne, italienne, grecque, même juive un peu. Et je suis intéressé de voir comment eux font, comment eux chantent ça, comment aussi on peut apprendre à chanter ensemble de façon à pouvoir ici pratiquer ce chant plus régulièrement.
Alors, ici, je vais vous montrer comment on peut lire ce chant en utilisant la deuxième manière de Jérôme de Moravie, la manière française.
Parce que, de fait, là-bas, à Cracovie, ils chantent à peu près tous les soirs avec dans ce style-là.
Quand on a deux notes répétées, la première est brève. Il y a
Donc ça doit être possible.
Quand on a un mouvement ascendant de trois notes, la première est semi-brève.
Mais ça demande du travail, bien sûr. Alors c'est pour ça que je vais là-bas.
Après, quand on a un mouvement circonflexe...
Et puis aussi, c'est dans ce souci d'élaborer un répertoire commun avec des frères d'un autre pays.
Et c'est tout. Les notes répétées.
Moi, j'aimerais beaucoup, in fine, qu'on puisse avoir des échanges entre différents pays d'Europe ou d'ailleurs, mais fondés sur ce bien commun de l'ordre qui est sa liturgie.
Les Dominicains mettent l'accent, hein, et c'est ce qui fonde un peu leur originalité sur la prédication. Donc vous devez lancer les phrases d'une certaine manière, proclamer avec une gravité, c'est-à-dire avec une lenteur. Le premier objectif, c'est d'être reçu, d'être entendu. Et le son, qu'est-ce que c'est? C'est une percussion des cordes vocales, évidemment, mais qui se transmet dans l'air. Donc vous créez des ondes dans l'air, quoi. C'est ce fluide qui doit rentrer en phase avec les proportions de l'édifice. C'est la raison pour laquelle le lieu d'où vous chantez dans une église est très importante. Et on s'aperçoit que chaque chant de la liturgie a une forme musicale particulière et a une directivité aussi particulière. Une église comme celle des Jacobins à Toulouse, et bien c'est vraiment comme un instrument de musique qu'il faut faire sonner.
Les Jacobins à Toulouse, donc une église du XIVe siècle, qui n'est pas tout à fait dans son état originel, puisqu'elle est sans doute plus vide qu'elle n'avait pu l'être, et donc son acoustique est modifiée, mais a été pour nous une école très intéressante, parce que lorsque nous célébrons la messe avec des chorales, nous avons constaté plusieurs fois que c'était difficile, que le son se diffusait mal. Alors à chaque fois, nous attribuions cela au fait que l'église est vide. Et on se disait, ben voilà, l'acoustique n'est pas celle de l'origine. Et en fait, quand nous avons travaillé avec Marcel Pérez, qui a le sens immédiat de l'acoustique d'un lieu, qui sait la saisir, donc qui sait adapter le flux de la voix, le rythme également du chant, eh bien là, d'un seul coup, on s'est rendu compte qu'avec quelques personnes, les Jacobins se transformaient en une extraordinaire caisse de résonance, et pour le coup, qu'en fait, il a une très bonne acoustique. Simplement, il faut la trouver, hein, il faut la découvrir. Et de fait, si on le trouve, eh bien, on se rend compte que c'est vraiment une église qui est bien faite pour la liturgie.
C'est un bâtiment qui a sa vie propre.
Il faut chanter plus lentement.
Elle aime la voix.
Donner de la voix, mais avec un rythme qui est plus solennel, en quelque sorte.
Elle a une petite tendance à aimer le silence.
Marcel Pérez, dans ses recherches musicologiques, a identifié une forme de chant du Moyen-Âge qu'il appelle la manière française, qui consiste à ce que toutes les notes soient longues.
Les sons s'y comportent de manière très bizarre.
les hommes du Moyen-Âge avaient une théorie de l'homme instrument, qui compare l'homme à un luth. Et dans la symbolique médiévale, les églises sont elles-mêmes des corps, des jambes qui sont les colonnes, avec une caisse de résonance, avec un chœur qui est l'autel où on célèbre la messe. Et donc, cette symbiose entre le corps de pierre et le corps de chair, eh bien, c'est cela qui peut, de fait, permettre d'utiliser l'église comme un instrument. Et c'est vrai qu'en fait, l'église nous renvoie quelque chose. C'est comme, en fait, si, lorsqu'on chante dans cette église, eh bien, c'est comme un appel, en fait, à ce que tous ces murs ont entendu. Et dont le souvenir est comme inscrit dans les pierres. Et donc, d'une certaine manière, on ouvre les pierres pour qu'elles libèrent le son qu'elles contiennent. Qui m'a beaucoup ému, c'était ces vigiles de Saint Thomas que nous avons chanté aux Jacobins au mois de janvier dernier, avec un office qui n'avait pas été chanté depuis 220 ans, en fait, dans cette église. Et c'est vrai que là, j'ai vraiment eu une expérience de son liturgique, au plein sens du terme, pour communier avec ces religieux qui ont chanté cet office pendant des siècles à cet endroit-là.
Nous étions 6 novices. Nous partons aussitôt quasiment pour une semaine de retraite chez nos sœurs, où le père maître va nous expliquer ce que c'est que la prise d'habit, ce que c'est que le noviciat, ce qu'il attend de nous. Et le samedi après-midi, pendant le grand office des vêpres, des premières vêpres du dimanche, nous revêtons l'habit. Les familles sont là d'habitude. Donc pour elles, c'est un détachement parce qu'elles vont voir leur enfant prendre un nouvel habit et recevoir un nouveau nom dont on ignore par avance son contenu. On se met à genoux devant notre supérieur et il nous dit: dans le monde, vous vous appeliez, par exemple pour ma part, Philippe Roussel, désormais vous serez frère Marie-Philippe. Et c'est vrai que le nom est quelque chose un peu important pour les familles parce que c'est le nom que les parents ont donné à leur enfant. Et donc il y a une sorte de dépossession de leur enfant lorsqu'on entend un nouveau nom qui lui est attribué. On entre dans une famille qui a 800 ans d'histoire. On est un maillon de cette chaîne immense.
Ce qui est très riche dans la musique liturgique, c'est que nous avons aujourd'hui, on est à 20 siècles de tradition, d'une musique qui n'a jamais été figée, qui a toujours évolué. Toute musique liturgique, elle va être liée aussi à son époque, à la culture qu'il a vue naître. De sorte que je pense que chaque époque va trouver des accents particuliers, parce qu'elle a son style. Un chant, une mélodie grégorienne du 9e, 10e siècle, elle est porteuse de la culture de l'homme médiéval du 9e, 10e siècle. Elle a quelque chose à nous dire parce que elle a su exprimer des choses que nous ne savons plus exprimer.
Le chant liturgique est une musique cosmique. On commence par l'office du lever du jour, les laudes, qui commencent dans la nuit, qui se terminent quand les premières lueurs arrivent dans l'église. Ensuite, l'office de la sixième heure, qui est lorsque vous soyez sa sosie, etc. De 3h à 3h.
Les noms même des offices signifient une inflexion différente. C'est-à-dire que les laudes, c'est la louange. Donc, or, le matin, le soleil se lève, et il faut avoir un petit peu la voix d'un coq qui chante. Et c'est-à-dire, pour réveiller le soleil, pour que le monde se mette en train. Ça, de fait, c'est une inflexion particulière des laudes, qui est ce temps de louange pour le retour du jour. Alors que l'office du soir, l'office dit de vêpres, donc ça veut dire office de soir, au moment où la nuit tombe, justement, où on rentre dans le repos et dans le silence. Et tout ceci se traduit par des modes, des tons. On ne chante pas sur le même registre, ni dans les mêmes tons, suivant qu'on est le matin ou le soir. Le chant est une pratique incarnée et donc qui suit les rythmes de la personne, les rythmes du jour, les rythmes des saisons. Ce rythme qui est impéré par la vie moderne, qui est celui du travail, salarié, celui que la plupart d'entre nous exercent, est un rythme qui n'est pas tout à fait naturel, au fond. Nous nous porterions beaucoup mieux à distribuer repos et éveil de façon complètement différente de nous le faisons aujourd'hui, et au fond que la nuit soit un temps également de léthargie, mais un temps consacré à des choses plus intéressantes. Et c'est vrai que la liturgie, de fait, accorde autant d'importance aux offices de nuit qu'aux offices du jour. « là, de fait, c'est peut-être l'indice d'une sagesse humaine bien enracinée dans notre personne, dans notre anthropologie.
Là, on découvre aujourd'hui qu'en fait, d'un point de vue simplement physique, sonore, on ne chante pas de la même manière à 6 heures du matin, à midi, à minuit, à 3 heures d'après-midi. Alors, ces paramètres qui étaient fondamentaux pour les anciens, aujourd'hui, sont secondaires, même on n'y pense pas du tout. Et la religion est devenue un peu une métaphore, une allégorie. Et une morale. Alors que pour les anciens, c'était d'abord un enracinement dans la course, dans l'harmonie cosmique, et le chant de l'homme dans la liturgie était l'instrument de cette harmonisation.
C'était Des Hommes et des Sons. Vous avez écouté Une Quête, une œuvre de Benoît Bory qui a reçu le prix Archives de la Parole au dernier Phonurgia Nova Awards. Merci à Marine Beccarelli, à Benoît Bory et à Phonurgia Nova. Vous pouvez nous réécouter et nous podcaster sur radiocampusparis.org, sur les pages de 37.2 et de Récréation Sonore.